questions, nos réponses.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos questions, nos réponses. Si vous avez une question ou bien un commentaire, eh bien n'hésitez pas à les laisser sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, nous allons dresser un premier bilan, un an après le début de la crise sanitaire. Nous allons parler des aidants. Soutenus par l'association France Alzheimer, ils alertent sur la dégradation de l'état de santé de leurs proches. Ils prennent la parole dans une tribune publiée dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et ils parlent aussi de leur état à eux. Car il faut le dire, la crise les a plongés dans une profonde solitude. Et dans ce texte, ils appellent à ne plus être oubliés. Et pour commencer cette émission, nous allons d'abord écouter le message vibrant que nous délivre Sophie Guillotot. C'est une aidante et c'est une des signataires de cette tribune.
Je m'appelle Sophie Guillotot et avec Françoise Capdepuis, Henri Dadon, Nicole Guidicelli, Daniel Monnier, Annie Picot et tous les autres aidants que nous représentons, nous avons décidé de faire cette tribune dont Laurent Dupuis s'est fait le porte-parole pour alerter sur nos situations d'aidants depuis le confinement. Et que toutes les souffrances que nous avons connues avant ça, exacerbées à partir de là, à domicile ou en établissement, ne se reproduisent plus. Nous avons besoin d'humanité et de solidarité collective forte. Tôt ou tard, nous serons tous confrontés à la maladie et ou être appelés à devenir aidants. Tôt ou tard, cela fait partie de la vie et ne doit plus être subi seul et en silence. Mais collectivement et avec créativité, générosité, courage, passion, résilience et abnégation. Depuis un an, nos situations ont changé. Nous ont demandé de trouver encore tellement plus de ressources et de résilience en chacun de nous pour tenir, pour supporter les chocs répétés et rapprochés, et dans les meilleurs des cas, pour sublimer ces situations de détresse initiale, pour ne pas sombrer, tout simplement. Mais malgré tout ça, le poids est bien réel. Le temps passe, les situations évoluent très lentement et l'épuisement se fait sentir. Épuisement moral, physique et émotionnel. Avec la crise que l'on connaît depuis un an, le secteur est très tendu dans le maintien à domicile et les mesures encore très restrictives dans beaucoup d'établissements. Nous avons besoin que les choses changent, avancent, d'être collectivement soutenus et respectés surtout, car à domicile comme en établissement, nous sommes la clé de voûte de nos proches malades et sommes pourtant trop souvent malmenés, froissés, dévalorisés, éprouvés, jugés, culpabilisés, abandonnés. Nous, les aidants en première ligne de front, de 25 à 80 ans. Rendre nos situations visibles, c'est appeler à de grandes mesures gouvernementales, bien sûr. Mais c'est aussi demander à chaque citoyen plus de douceur envers les aidants dévoués que nous sommes. Un regard bienveillant et solidaire au quotidien. C'est venir prendre régulièrement de nos nouvelles, proposer son aide. C'est nous simplifier les choses plutôt que de nous les compliquer. Éviter de nous rajouter une charge mentale, une pression supplémentaire. Voilà. Tout ça passe aussi par des petits gestes, des petites attentions. Nous sommes terriblement forts, aimants et courageux, mais aussi très fragilisés et vulnérables. Aider les aidants, en respectant leurs choix et leur place auprès de leurs proches, c'est les aimer. C'est nous porter collectivement vers un monde meilleur. Et c'est leur dire merci d'ouvrir la voie, d'ouvrir nos cœurs et nos yeux, de nous tendre les mains, pour espérer que quand ce sera notre tour d'être malade ou aidant, tout sera différent, tout aura changé. Tout ça se construit et prend racine dans des détails, au fond de chacun de nous. Alors faisons la différence, tous ensemble, et aujourd'hui. Merci.
Voilà pour le message de Sophie, qu'on remercie beaucoup pour ces mots très forts. Et nous sommes d'ailleurs avec d'autres signataires de la tribune pour parler de ce sujet. Deux aidants, justement, dont les situations sont différentes, mais qui vont nous livrer leurs impressions. Henri Dadon, dont l'épouse qui souffre de la maladie d'Alzheimer est en EHPAD. Bonjour Henri.
Oui, bonjour.
Et Daniel Monnier, ancien médecin généraliste qui s'occupe de son épouse, qui souffre, elle aussi, de la maladie d'Alzheimer. Il s'en occupe donc à domicile. Bonjour Daniel.
Bonjour, bonjour.
Alors pour commencer Daniel, première question. Un an après le début de la crise, quel constat dressez-vous de votre situation en tant qu'aidant?
Je dirais que je m'en suis aperçu a posteriori et je pense que ça ne m'a pas fait que du bien. Parce que je pense que mon mode de réflexion avait beaucoup changé. J'ai pris Ça a accentué mon chagrin, mon exaspération vis-à-vis de la maladie. Ça a eu un effet bénéfique, c'est que mes enfants ont dû s'en apercevoir et m'ont imposé des aides à domicile plus importantes que ce que j'avais jusque-là. Avant la crise, je n'avais qu'une employée de maison qui travaille chez nous depuis 32 ans, qui est très attachée à mon épouse et qui souffre beaucoup de la maladie de mon épouse. Et qui finalement, je ne me suis pas rendu compte, elle était elle aussi en train de craquer. Elle n'allait pas bien du tout. Et donc, elle a été bien contente quand elle a vu arriver des aides. Donc, ça a eu un effet pour débloquer. Il était grand temps de prendre les choses en main. Voilà. Et quand je repense au confinement, j'avais mon employé de maison qui était là le matin et à 2 heures de l'après-midi, je la voyais partir avec une sacrée anxiété. Et l'après-midi, j'étais même incapable d'occuper mon après-midi. J'étais donc en huis clos avec mon épouse, qui comprenait rien, enfin voilà, qui comprend rien à la vie, qui comprend pas bien son environnement, etc. Et ça me génère, le fait d'y repenser me génère une anxiété incroyable. Donc je pense que j'ai pas bien vécu ça du tout.
Alors de votre côté, Henri, quel est votre bilan en tant qu'aidant un an après la crise?
Écoutez, c'est un constat d'abord très difficile. Hein. C'est quand même depuis la crise sanitaire, avoir quelqu'un en EHPAD, surtout quelqu'un comme un conjoint, puis avoir subi les différentes restrictions de visite, puis l'incertitude quant à l'état de son parent. C'est une période vraiment difficile à vivre et à accepter, sachant que son parent était loin. Dans des conditions. Alors évidemment, on se dit, ça rend compte de rien, et dans un état un peu difficile, mais malgré tout, c'est complexe, quoi. Hein. C'est vraiment pas facile à vivre comme situation.
Donc deux situations uniques et pour autant compliquées. Daniel, on a bien compris les difficultés qui étaient les vôtres, mais du coup, pour que l'on comprenne bien, qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant cette crise sanitaire?
C'est l'isolement, quoi. Plus personne à voir, en dehors de cet employé de maison qui est resté très fidèle et qui a tenu à venir, comme elle n'habite pas très loin de chez nous, elle est venue. Mais l'isolement, la solitude, cet enfermement avec quelqu'un qui n'a plus les repères, les raisonnements, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte encore plus de sa maladie, encore plus de chagrin, encore plus d'agression due à la maladie, quoi. Parce que cette maladie-là est une agression. Pour le patient, l'aider, le malade, mais pour les aidants aussi, c'est une agression d'une violence incroyable, quoi. On est un couple plutôt fusionnel, hein, on nous a donné cette définition-là. Eh bien, ça abîme le couple. Et on n'y est pas prêt du tout, quoi. Alors, on est parti sur une idée d'un couple inaltérable, et là, patatras, c'est une catastrophe. Voilà.
Alors, on vient d'entendre Daniel, hein, et cette situation catastrophique pour le couple, comme il dit. Pour vous, Henri, qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant cette crise sanitaire?
Le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir faire les visites comme on veut, quoi. C'est d'être soumis à des restrictions qui changeaient constamment pour le coup. Chaque 2 mois, de nouvelles conditions de visite. Puis voir sa femme derrière une vitre au tout début du confinement, c'était ça, hein. Pour des personnes qui sont malades cognitivement, c'est très difficile parce que il n'y a pas le contact tactile, parce que ces personnes déficientes cognitives ne peuvent pas réagir en fait. Et en plus, derrière une vitre, vous voyez un peu le schéma. Hein. Ça s'est amélioré un petit peu lors du deuxième confinement, quand on pouvait effectivement la voir, mais toujours à une certaine distance, mais sans la toucher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est difficile de capter l'attention de la personne parce que voilà, se rendait pas compte de la situation. En plus, avec un masque et puis une blouse, une charlotte, vous voyez un peu comment vous pouvez vous reconnaître, c'était mission impossible.
Alors Daniel, on va parler maintenant de votre épouse. Elle s'appelle Corinne. Elle souffre donc de la maladie d'Alzheimer. Que pouvez-vous nous dire de son état après cette année compliquée?
Alors, de son état, il s'est franchement aggravé. On a une petite vidéo qui a été faite par France 5 juste avant le confinement. Et là, mon épouse, elle est interrogée à un moment donné et elle exprime qu'elle est contente d'aller au ping-pong et de faire encore ce qu'elle peut toujours faire. Donc, cette réponse, elle sort de sa bouche. Elle la construit, elle l'exprime tout à fait clairement. Il y a eu une petite hésitation. Mais là, après le confinement, il n'y avait plus rien. On ne peut plus lui poser de questions car on n'aura pas de réponse. Puisque quand on arrive à un mot complet, on a de la chance. En général, on a une syllabe, deux syllabes. On n'a jamais une phrase complète. Alors, est-ce que c'est dû à l'aggravation de la maladie? Est-ce que c'est dû au confinement? Je pense qu'il y a les deux. Le confinement génère une aggravation de la maladie. On peut le voir sur un truc. Vous voyez, avant le confinement, mon épouse jouait bien au ping-pong. Elle jouait pas mal au ping-pong. Et puis, après le confinement, quand on a repris le ping-pong, elle ne savait plus jouer au ping-pong. Et maintenant, quelques mois, donc, après la reprise, elle rejoue au ping-pong et elle le semble même de temps en temps avoir progressé. Ce qui s'est dégradé, c'est sa fatigabilité. C'est-à-dire qu'elle va bien jouer au ping-pong, mais ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, et puis c'est tout. Mais donc, cette espèce de dégradation après le confinement, puis cette réamélioration, cette reprise de progrès après, il y a un effet délétère de ce confinement. Il y a quelque chose qui s'est passé, si vous voulez.
Donc une année qui laisse des traces. Est-ce que c'est votre cas également, Henri, pour votre femme qui est donc en EHPAD? Qu'est-ce que vous avez constaté sur son état après cette année très compliquée?
Est-ce que c'est la dégradation de la maladie ou l'isolement? C'est difficile à dire. Je pense que l'isolement a joué quand même beaucoup parce que plus d'une fois, l'infirmière me dit effectivement, comme elle ne voit pas de gens, elle sombre un petit peu plus que de coutume, quoi. Hein. C'était ça, alors, en fait, le plus difficile à accepter, hein, de ne pas pouvoir, et surtout d'être impuissant par rapport à ça, de rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir aider en quoi que ce soit. Hein.
Daniel, vous nous disiez tout à l'heure que vous ne vous attendiez pas à tout cela par rapport à la maladie et encore moins à devoir gérer la maladie pendant la crise sanitaire. Justement, avec tout ça, c'est l'occasion, si j'ose dire, de nous dire quel est le vrai quotidien d'un aidant?
Ben, le quotidien, c'est la présence permanente, si vous voulez, c'est la communication impossible. Il faut être toujours là pour habiller, déshabiller, aider à aller aux toilettes, aider à la toilette, et puis le spectacle d'une personne qui ne comprend plus rien, quoi, et qui va errer dans l'appartement, qui s'ennuie un peu parce que, bon, elle est un peu elle est très apathique, et finalement elle s'ennuie parce qu'elle ne fait rien. Mais aussi parce qu'elle ne sait rien faire. Donc, de temps en temps, elle s'occupe en soulignant. Elle ouvre un livre et puis elle souligne, elle souligne, elle souligne tout, ligne après ligne, toutes les lignes du livre. Mais si on ne lui tourne pas la page, elle reste sur la même page. Et au bout de quelques jours ou quelques heures, il faut déchirer, enlever la page pour qu'elle passe à la suivante. Et donc, il n'y a plus que ça à voir. Avec des tics qui s'installent, des tics avec des mouvements de bouche, un visage qui se ferme, un regard qui ne voit plus rien, quoi. Donc, et tout ça s'est franchement aggravé pendant le confinement, avec une anxiété. Bon, on arrive à calmer cette anxiété avec les cachets, avec les mots, les paroles, on a du mal à calmer parce que toujours les mêmes questions, les mêmes inquiétudes, les mêmes peurs. On répond gentiment les premières fois, puis à un moment donné, on perd patience, et en perdant patience, on aggrave l'anxiété, on aggrave la peur. Enfin bref, c'est un cercle vicieux et terrible, quoi. Après le confinement, on a pris plus d'aide et on est tombé sur des filles fantastiques, et qui donc ne sont pas impliquées finalement émotionnellement, affectivement, et qui ont plus de patience que nous, les aidants, quoi. Nous, les aidants, ce qui nous mine, c'est le retentissement de tout ça sur notre émotion, sur notre affectif, sur notre amour, quoi. C'est terrible, c'est une frustration très importante.
Et on s'en veut dans ces moments-là?
Complètement. Je veux dire que c'est la première fois où je suis passé chez la psychologue, j'ai dit, vous savez, c'est la double peine. La double peine, c'est quoi? C'est, un, le chagrin de voir que notre être cher disparaît petit à petit en devenant laid. Il y a toutes les laideurs, des pertes de capacité intellectuelle, puis le physique qui se modifie terriblement. Et puis, il y a l'autre peine qui est de se voir ne pas réagir comme il faudrait. On réagit avec agacement, impatience. Pour moi qui fais ma médecine en croyant que j'allais sauver tout le monde, et la mienne, ma femme, j'arrive pas à la soigner, j'arrive pas à la soulager, j'arrive pas à l'apaiser, je perds patience alors que j'ai voué ma vie à ça et ben, j'y arrive pas. Voilà, donc la double peine, perte de l'être et perte de soi-même, quoi. On voit qu'on n'est pas ce qu'on croyait. C'est vachement dur, hein, je peux vous dire.
Alors, on vient d'entendre les mots très forts de Daniel et cette double peine qu'il évoque. Vous, Henri, votre femme est en EHPAD. On a entendu beaucoup de choses sur les EHPAD tout au long de cette crise sanitaire. Ça a été très compliqué. Vous, comment avez-vous vécu le fait de ne pas être avec votre femme pendant cette crise et comment ça s'est passé au sein de l'EHPAD ?
Alors, donc, c'est un EHPAD, effectivement, qui est situé pas très loin de chez moi. Hein. C'est un EHPAD public déjà, je dois dire. C'est pas un EHPAD privé, c'est un EHPAD public, dont le personnel est quand même été très très bienveillant. Premier confinement, le virus n'est pas rentré, donc ils ont réussi à contenir le virus en dehors. Deuxième confinement, c'était moins strict, et puis le virus est bien rentré. Mon épouse a été contaminée d'ailleurs début janvier, ça s'est passé. Je pense que le personnel, j'ai la chance d'être dans une unité de soins protégés, une unité de vie protégée, où le personnel est très à l'écoute, répond quand on l'appelle, donne des nouvelles de façon spontanée. J'ai réussi à avoir de bonnes relations avec une aide-soignante qui n'hésitait pas à m'appeler et puis à me faire une vidéo de mon épouse. Bon, évidemment, c'est une vidéo pour une personne collectivement atteinte, c'est difficile à répondre, mais au moins je pouvais la voir et me rassurer sur son état de santé. Hein. Le personnel a fait vraiment son possible et je retire vraiment mon chapeau.
Alors, comme très souvent dans la maladie d'Alzheimer, les situations sont uniques, c'est d'ailleurs votre cas. Vous, Daniel, vous avez fait donc le choix de garder votre épouse à domicile. Vous le dites vous-même, vous êtes plutôt lucide sur cela. Vous avez les moyens financiers de le faire. Ce n'est pas forcément le cas de tous les gens qui nous écoutent, de tous les aidants. Que leur dire, justement, Daniel ?
Eh ben, c'est que je pense beaucoup à eux. J'ai beaucoup de compassion pour eux. Et si on peut les aider pour trouver les moyens pour secouer les pouvoirs publics, eh ben, il faut le faire, quoi. Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience que ça va progresser, quoi. Toutes les aides nécessaires vont progresser. Parce que ces gens qui sont sans moyens, ils vont avoir plus de peine que nous parce que ils vont être obligés de se séparer de leur être cher. Ils vont être obligés de les mettre en EHPAD plus rapidement, dans des EHPAD quelquefois à bas prix. On va restreindre sur les frais.
Et oui, cette question financière qui est très importante quand on a un proche qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Henri, les questions financières qu'aborde Daniel, est-ce que ce sont les raisons pour lesquelles vous avez dû placer votre épouse en EHPAD ?
Bien sûr que non, parce que placer son épouse dans un EHPAD, d'abord c'est un acte extrêmement difficile. Je crois que c'est la décision la plus dure de ma vie. Et la plus contraignante bon, qu'il me soit, parce que je sais pas si vous, quand vous quittez le seuil de votre appartement et que vous dites c'est la dernière fois qu'elle passe ce seuil, qu'elle ne reviendra plus, je souhaite à personne de vivre ce moment difficile. Les raisons qui m'ont poussé à placer mon épouse dans un EHPAD, il y a de cela presque 4 ans maintenant, 3 ans et demi, c'était son état qui s'était dégradé, son état comportemental qui s'était dégradé, et que je ne pouvais plus assumer tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait avoir absolument plein de personnel à la maison. Bon, jour et nuit, c'était pas possible. À un moment donné, si vous voulez, on se pose la question, où c'est elle, où c'est moi ? J'ai décidé de la placer, alors avec, bien sûr, deux conditions. D'abord, que l'EHPAD dans lequel elle serait un EHPAD bienveillant, c'est-à-dire que le personnel serait bienveillant. Et puis, que le coût financier mensuel me permette aussi de vivre à côté. Parce que, vous savez, quand c'est un couple... Et quand un des conjoints va en EHPAD, c'est un coût mensuel, surtout en région parisienne, assez exorbitant. Et donc, il faut avoir les moyens de pouvoir vivre en dehors. C'est pas une décision facile à prendre. Et puis, voilà. Donc, pour la protection, pour sa propre protection et pour la mienne, c'est la décision qui s'était imposée naturellement, quoi.
Alors, Daniel, on en parlait aussi tout à l'heure. Pour vous, quel rôle doivent prendre les pouvoirs publics par rapport aux aidants ?
Ben, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est le pognon, hein. Il faut du pognon, tout ça, ça coûte cher tout ça, c'est une maladie qui coûte cher, pas en médicaments, mais qui coûte cher en aide. Regardez ce qu'a coûté le sida au début où on a trouvé les premières molécules, le coût était monumental, et la sécurité sociale a remboursé tout ça, elle a payé. Là, on trouve maintenant des thérapeutiques à l'ARN messager, ou anticorps monoclonaux, mais il faut pas se leurrer, ça coûte la peau des fesses, tout ça. Eh ben, Et ça pose pas de problème, ils sont remboursés à 100% et la sécurité sociale paye. Donc il faut trouver des moyens de financement, il faut qu'on fasse rentrer ça dans un système de financement qui soit relativement automatique, peut-être la prise en charge complète des charges sociales des gens qui aident, ou peut-être, je sais pas, en plus des aides au financement, enfin, je sais pas, il y a une vraie réflexion. Comme en plus la population de la France vieillit et que le nombre de personnes âgées va augmenter, il y a un puits sans fond, c'est sûr. Alors bien sûr, la période est mauvaise en ce moment, parce que le fond du puits s'éloigne encore plus du bord, donc il faut le remplir, remplir, remplir.
L'argent, le nerf de la guerre, c'est souvent la problématique qui revient sur cette antenne quand il s'agit eh bien, des aidants et de leurs proches, car cette maladie coûte cher. Alors pour vous, Henri, quel rôle doivent prendre les pouvoirs publics par rapport aux aidants?
Aider peut-être un peu plus financièrement les aidants à survivre, hein, avec des aides un peu plus conséquentes concernant les frais d'admission dans les EHPAD, quoi. Je vois que ça, vraiment, quoi.
Henri, vous faites partie de cette tribune publiée dans Le Parisien aujourd'hui en France. Quel est son but très exactement?
Ben, le but, c'était de relater un petit peu la situation des aidants dans cette période de confinement exceptionnelle, et puis d'alerter l'opinion publique, et puis d'alerter aussi les pouvoirs. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup des aidants, on parle beaucoup des personnes malades, mais les aidants, en fin de compte, surtout quand ils sont jeunes, c'est une vie brisée, hein, quand même, hein. C'est une vie brisée non seulement pour l'aidant, mais pour la famille, pour l'entourage. Moi, j'ai deux filles qui ont toujours du mal à accepter que leur mère soit dans un EHPAD. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très très connu en fin de compte, hein, parce que un malade comme ça dans une famille, c'est toute la famille qui est brisée, hein. On a du mal à recoller les morceaux, on a du mal à tenir le choc. Donc il faut vraiment beaucoup beaucoup de résilience, beaucoup d'amour en fait, pour pouvoir résister à tout ça, quoi.
Alors, une dernière question pour terminer cette émission. D'abord à vous, Daniel, à tous les aidants qui nous écoutent en ce moment, quel message souhaiteriez-vous leur délivrer pour les soutenir tout d'abord?
C'est savoir reconnaître qu'on est seul et qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas tout seul. On est obligé d'être aidé. Aidé par ses enfants, aidé par ses frères et sœurs, aidé par des aidants professionnels. Et le sauvetage, c'est l'aide. Le sauvetage, c'est l'autre. Le bonheur, c'est les autres. Le paradis, c'est les autres. C'est parce qu'on va être aimé qu'on va s'en sortir, quoi. Mais bon, il faut être accueillant, hein. On n'est pas aidé quand on n'est pas accueillant. Il faut savoir ouvrir sa porte, quoi. Il y a des gens. Vous savez, c'est dur, hein, d'ouvrir sa porte, d'accepter d'avoir des aidants toute la journée. C'est qu'on ne va plus être dans l'intimité. On va avoir des gens, on va avoir les intrus chez soi. Donc il faut faire un travail sur soi, et tiens, je vais lui ouvrir ma porte. Il faut retrouver l'horizontalité, quoi.
Et vous, Henri, un message pour les aidants qui nous écoutent?
Alors le message, de toute façon, il faut bien se dire que ce qui nous arrive, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, et on n'est pas préparé pour ça. De toutes les manières, on n'est pas préparé. Donc il faut pas avoir honte de demander de l'aide psychologique à son entourage quand l'entourage est capable. Sinon, ce qui m'a aidé, et je le dis aussi, ce sont les groupes de parole de France Alzheimer. J'ai pu rencontrer des gens qui étaient dans ma situation et ça m'a aidé énormément. Vraiment, j'encourage les personnes dans mon cas à participer à ces groupes de parole parce que c'est un apport psychologique extrêmement fort. Donc vraiment, parler de son cas et ne pas se renfermer sur soi-même, parce que ça, c'est le pire des choses, le pire des scénarios qui puissent exister. Voilà, et trouver un ami ou une amie qui a le courage, parce que vous savez, dans cette période-là, les amis et les amis disparaissent, hein, on se sent vraiment seul, hein. Donc trouver quelqu'un qui a le courage de vous écouter et puis de partager un petit peu la souffrance, quoi.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission sur les aidants. Merci également à Sophie Guillotot, signataire aussi de la tribune au nom des aidants, à lire et à relire et à partager via Le Parisien aujourd'hui en France. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez continuer de réagir, de poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio ou bien sur la page Facebook de l'association. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.